Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Juliette est la maman de Louison, son petit garçon âgé de 2 ans. Lorsqu'elle est devenue maman, la maternité n'a pas été une évidence tout de suite et elle a petit à petit créé du lien avec son bébé grâce à l'allaitement. Cet allaitement qui avait plutôt mal commencé aura finalement duré 17 mois grâce à l'intervention d'une sage-femme à l'écoute des désirs de Juliette. Si la maternité a été un premier bouleversement dans sa vie, Juliette ne s'attendait pas à se prendre une deuxième grosse vague lorsqu'on lui a annoncé son cancer du sein. Dans cet épisode, Juliette nous raconte sa grossesse, son allaitement, la découverte d'une grosseur à l'un de ses seins, la traversée de son cancer express. Elle nous parle également de son regard sur son nouveau corps de femme et de cette épreuve qui lui a donné une autre vision des priorités. Bonne écoute.
Bonjour Juliette, merci Bonjour. Beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, tu es maman d'un petit garçon qui a 2 ans.
Oui, tout à fait, Louison.
Louison, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité au sein de ton couple ?
Alors, ça fait 13 ans que je suis avec Gaëtan, ça fait 11 ans qu'on est mariés, et on savait qu'on voulait un ou des enfants, mais on n'était pas forcément prêts, donc c'est vrai qu'on se mettait toujours l'objectif dans 3 ans, et en fait, tous les ans, c'était dans 3 ans. Et moi, j'ai pas eu le déclic, un peu le truc que des fois les femmes disent... ça m'a pris au trip, il me fallait un enfant, etc. Donc ça a été plutôt une décision raisonnée, on va dire, où on s'est dit, bon, on commence à vieillir, entre guillemets. Là, j'ai 35 ans, donc j'ai accouché à 33 ans. Mmh. Et on s'est dit, bon, bah, c'est à peu près le bon moment. Moi, j'avais quitté mon boulot, j'étais plutôt bien. Gaëtan, son boulot, ça marchait bien. Voilà. Donc c'était plutôt une décision de... voilà, de cérébral, on va dire que voilà, ça venait pas forcément des tripes. Et voilà, et en fait, je suis tombée enceinte assez rapidement, mais j'ai fait une fausse couche au bout d'un mois et demi. Donc, j'étais tombée enceinte au mois de mai, j'ai fait ma fausse couche au mois de juin, et je suis retombée enceinte au mois d'août. Ouais. Donc, ça a été très rapide. Et cette fois, c'était la bonne, c'était Loulou, du coup, qui était bien installée.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse ?
Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis de santé, j'ai pas eu de nausées. J'étais fatiguée, mais bon, je pense comme beaucoup de femmes enceintes. J'étais déjà à mon compte, donc j'ai vraiment pu adapter mon rythme et tout. Donc, je me suis beaucoup reposée. J'étais énorme, enfin, j'avais un ventre énorme. Donc, à partir de 7 mois, à peu près... Je roulais, enfin, les gens dans la rue me disaient « mais vous attendez des jumeaux ?»
Ah oui.
Ouais, j'avais vraiment un énorme ventre, donc voilà, j'étais un peu, on va dire, handicapée vers la fin, mais grossesse sans souci particulier. J'étais très bien enceinte, très détendue, alors je suis hyper angoissée dans la vie, et alors pendant la grossesse, j'étais ultra zen en fait, je pensais les hormones, donc très très bon, très bonne expérience.
Et ton accouchement s'est bien passé ?
Et mon accouchement s'est bien passé. Alors, c'était pas l'accouchement de mes rêves, mais il s'est bien passé. Moi, je voulais accoucher sans péridurale. Voilà, j'ai pas réussi.
T'avais fait une préparation ?
Alors, j'avais fait une préparation classique à l'accouchement. Après, j'avais lu des bouquins sur accoucher en pleine conscience. J'avais fait avant pour des soucis de santé, tout ça. J'avais appris l'auto-hypnose et tout, donc je m'étais dit je vais m'en servir pour gérer la douleur. Mais en fait, j'avais tellement mal que j'arrivais même pas à me dire allez je fais de l'auto-hypnose, tout ça, mon cerveau ne fonctionnait plus. Du coup j'ai tenu 8 heures sans péri.
Ah, quand même.
Et je me suis dit bon bah on va voir si elle me dit vous êtes à 7, bon bah c'est bon. Et en fait j'étais à 3 au bout de 8 heures et je me suis dit non mais en fait je vais pas tenir encore comme ça 7, 8, 9 heures, enfin j'aurais plus de force pour la pousser, donc j'ai craqué, j'ai pris la péri. Et j'ai pas regretté parce que ça m'a vraiment. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Et l'accouchement s'est bien passé. Ça a duré 16 heures en tout, entre la première contraction et l'arrivée de Louison. Et voilà. Si jamais j'ai un autre enfant, peut-être que je réessaierai sans péridurale. Ça sera peut-être plus rapide aussi. On dit que pour le deuxième, ça va parfois plus vite. Donc.
Une bonne préparation.
Avec une bonne préparation, voilà. Je pense que j'ai sous-estimé le truc. Je me suis dit, non, c'est bon. J'ai lu des bouquins et tout, mais en fait, non. Et puis, je voulais aussi accoucher en maison de naissance. Et je m'étais dit, je serais accompagnée, du coup, dans ma démarche, puisque là-bas, on accouche sans péridurale. Mmh. Et j'ai pas eu de place. Donc, j'ai accouché dans une maternité, classique. Mmh. Où, du coup, mon envie de non-péridurale. Ils m'ont dit ok on vous laisse faire mais ils m'ont pas aidé, c'est à dire quand je suis arrivée en disant bah maintenant en fait je veux la péridurale, ils m'ont fait ok on l'a fait, ils m'ont pas aidé non plus en me disant attendez si vous voulez on va essayer, voilà, ils ne sont pas posé de questions, ils me l'ont posé et voilà. Mais c'est un bel accouchement, j'ai pas de regrets, ça s'est bien passé, on était tous les deux en bonne santé, c'est principal.
Et alors toi tu pensais pas allaiter au départ?
Alors, avant d'être enceinte, effectivement, je pensais pas du tout à l'été. Je connaissais même pas, je connaissais pas l'allaitement, je sais pas. Donc c'était, je voyais ça comme un truc très animal, un peu bizarre. Enfin, j'avais pas eu d'exemple autour de moi de femmes qui allaitaient. Et du coup, je m'étais même pas posé la question. Pour moi, c'était le bébé, il prenait le biberon. Et j'ai une copine, une fille qui a un compte Instagram et qui je suis partie en voyage, qui était enceinte quand j'étais en voyage avec elle. Et on s'est revus après, elle avait accouché. Et en fait, elle allaitait son fils et on était au café, puis son fils a faim, voilà. Et elle l'a mis au sein. Et en fait, c'était hyper naturel, ça l'a calmé tout de suite. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc, c'est marrant. Enfin, voilà. Et donc,
Ça a été le premier déclencheur,
ouais. Déjà, je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, on peut allaiter son enfant. Enfin, moi, je connaissais rien au bébé, je venais vraiment de très loin. Et en parallèle de ça, je suivais aussi une jeune maman sur Instagram qui faisait des photos magnifiques, d'allaitement, notamment. Et du coup, ça a un peu changé mon image aussi, le côté, j'avais le côté un peu vache, enfin vraiment les clichés qu'on peut avoir sur l'allaitement. Et je me suis dit, ben non, enfin c'est beau en fait une maman qui allaite, et en fait notre corps il est fait pour ça. Donc je me suis dit, je vais essayer, voilà. Et donc j'ai lu des bouquins, c'est mon côté première de la classe. Et je me suis dit, je vais essayer, j'aimerais bien allaiter. Quand, du coup, j'ai accouché et que j'ai pas réussi, entre guillemets, mon accouchement idéal, je me suis dit, j'ai raté mon accouchement, je vais au moins réussir mon allaitement. Et en fait, ça s'est pas bien passé du tout au début. je savais pas faire, je pense beaucoup de mamans. C'est quelque chose qui est naturel, mais qui est pas forcément instinctif. On n'a plus la transmission, enfin on voit quand même si ça revient un peu, je pense qu'on est une génération où les mamans elles donnaient beaucoup le biberon, enfin donc effectivement il a fallu tout apprendre. Et les premières 24 heures, alors j'ai accouché, je vais revenir un peu en arrière, quand je suis arrivée à la maternité, on m'a dit vous êtes la dernière, la maternité est pleine, les prochaines mamans on les transfère ailleurs. Donc en fait la maternité était pleine à craquer, je me suis retrouvée en chambre double. Donc Gaëtan n'a pas pu rester la nuit. Enfin voilà, je comptais beaucoup aussi sur Gaëtan pour m'aider à le positionner, etc. Et donc, moi j'avais lu, la position c'est hyper important. Voilà, une bonne position c'est un allaitement réussi. Une mauvaise position ça donne des crevasses, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à appeler les sages-femmes et les puéricultrices. Elles vont vous aider à le positionner. Sauf qu'en fait, elles étaient débordées. Donc quand je les appelais, elles arrivaient 2 heures après. Sauf que Louison, il avait faim, donc je me suis dit, je vais le faire toute seule, j'ai lu des livres. Et en fait, non, j'ai eu des crevasses, en fait, dès les premières heures. Et une puéricultrice m'a dit, en fait, vous n'allez pas y arriver, madame. Enfin,
ah oui.
Ouais. Vous avez, alors, elle m'a dit, vous avez la peau trop claire.
Et la peau trop claire.
Voilà. J'avais jamais. Bon, vous avez la peau trop claire, trop sensible, et malheureusement, je suis vraiment désolée, je sais que ça vous tient à cœur, mais vous n'allez pas y arriver. Donc, je me suis effondrée en larmes. Enfin, c'était vraiment. J'étais. Enfin, dégoûtée. Ah ouais, sentiment d'échec. Enfin, j'étais vraiment hyper déçue, mais je me suis dit, c'est son métier, c'est ce qu'elle fait, et puis moi, je venais d'accoucher, enfin. Donc, on n'est pas dans son état normal. Et du coup, Louison, il a eu des biberons pendant 24 heures. Et moi, je me suis résignée. Et le lendemain matin, je suis tombée sur une puéricultrice qui était incroyable et qui m'a dit... voilà, mes collègues m'ont dit que vous étiez déçue et que ça vous tenait à cœur. Si vous voulez, on reprend tout au départ. On recommence tout à zéro. Je vais vous aider. Et donc, elle a pris vraiment le temps de m'expliquer. Elle m'a conseillé les coquillages d'allaitement, du coup, qui soulagent les crevasses. Et ça m'a vraiment tellement soulagée et fait tellement de bien. Mes crevasses ont guéri très rapidement. Elle m'a expliqué la position. Alors, on a mis des bouts de seins en silicone. Alors, les puristes sont un peu contre, mais en même temps, j'avais tellement mal que j'y arrivais pas sans. Mais voilà, elle m'a vraiment tout réexpliqué. J'ai tiré mon lait à fond la caisse aussi pour stimuler, parce que forcément, pendant 24 heures, il n'y avait pas eu de tétée.
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
Ouais. Du coup, il fallait encourager le truc pour relancer la machine, parce que le corps, du coup, pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, du coup, voilà, ça a été au début, ça a été les premières... On va dire pendant un mois, ça a été assez compliqué, parce que du coup, je tirais mon lait hyper souvent... Il faut le temps de prendre ses marques aussi. J'avais les douleurs qui commençaient à diminuer, mais bon, malgré tout, le mal était fait, entre guillemets. Donc, le premier mois était très compliqué.
T'as eu envie d'arrêter ?
Et en même temps, non, j'ai pas eu envie d'arrêter parce que c'était merveilleux. Enfin, en même temps, je trouvais que ça m'aidait à vraiment à tisser un lien avec Louison. Moi, je me suis pas sentie maman tout de suite. Quand j'ai accouché, je me suis dit, mon bébé est très beau, etc. Mais... Enfin, ça n'a pas été tout. Enfin, c'est pas venu tout de suite. Et l'allaitement m'a vraiment aidée en fait à me sentir mère et à me sentir sa maman, à me dire qu'il avait besoin de moi. Enfin, donc je voulais pas arrêter pour ça. Et puis en fait, il prenait du poids correctement. Je suis allée voir aussi un peu plus tard une consultante en lactation, etc. pour m'aider. Et puis au bout d'un mois, on va dire, j'avais pris mes marques et et après, ça roulait, c'était roulé tout seul.
C'était quoi les conseils de la conseillère en lactation, si tu t'en souviens?
Ouais, alors... déjà, c'était la position, trouver la position qui nous convient. Alors, au début, j'étais encore une fois très première de la classe. J'avais lu « Il faut changer de sein, une fois le gauche, une fois le droit. » Elle m'a dit « Écoutez-vous. » Vraiment, laissez revenir l'instinct, laissez... Enfin, écoutez... en fait, le corps sait, quelque part...
Oui.
En fait, on sait. Enfin, moi, je notais sein gauche 10h52, sein droit machin. En fait, on le sent. Enfin, si on s'écoute un peu, on sent quel est le sein le plus plein. On sait. Enfin voilà. Donc, plus de m'écouter, trouver la position qui me convenait le mieux. Donc moi, c'était le BN, biological nurturing. Donc c'est quand on est allongé comme ça, le bébé est allongé par dessus. Et effectivement, c'était beaucoup moins douloureux pour moi. Ça allait beaucoup mieux. Et donc j'étais plus là à essayer toutes les positions pour varier et tout. Enfin, je faisais plus que ça et ça allait très bien. Des tétées ultra fréquentes pour conserver une bonne lactation. Et moi on a tous une capacité de stockage de lait. Moi, elle n'était pas énorme, donc ne pas hésiter à lui donner aussi souvent qu'il réclame et même ne pas forcément attendre. Qui réclame, il y a juste ce qu'on appelle les signes d'éveil en fait. Donc Louison ne pleurait en fait jamais, quasiment, parce que je surveillais, je me disais, là il commence à montrer des petits signes de faim. Et... Voilà, c'était. Après ça remonte, hein, mais c'était un peu les conseils que que j'ai retenu, puis se faire confiance en fait, et se dire que le corps il est fait pour ça, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tant qu'on est bien accompagné.
Et du coup, t'as allaité combien de temps ?
Et du coup, j'ai allaité 17 mois à peu près.
Ouais,
ouais, finalement, je m'étais fixé un objectif de 6 mois, puisque c'était un peu la recommandation. Enfin, c'était un peu les recommandations, quoi, 6 mois. Et puis en fait, comme ça a mis du temps à démarrer, à se mettre en place et à ce que ça fonctionne bien, je me suis dit, j'ai fait tous ces efforts, ce serait quand même dommage d'arrêter. Mmh. Et en fait, je me suis dit, finalement, il n'y a pas de raison d'arrêter. Pourquoi 6 mois ? Enfin, il n'y a pas une date de péremption. Enfin... Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, on va continuer tant que ça nous convient. Et puis voilà, puis 9 mois. Puis il y a 9 mois, il a commencé à aller chez la nounou. Et puis j'ai continué, en fait. Du coup, je tirais mon lait la journée, il buvait mon lait chez la nounou. Et voilà, et on a tenu 17-18 mois. Et en fait, j'ai arrêté à contre-cœur, parce qu'il ne prenait pas assez de poids. Et du coup, les médecins m'ont mis vraiment la pression pour que j'arrête d'allaiter. Voilà. Donc j'ai fini. Au début, j'ai résisté, on va dire. Et puis j'ai fini. C'était trop de pression. Enfin, je me sentais trop responsable. Et donc j'ai arrêté.
T'as fait une transition entre l'allaitement et le biberon ?
Alors, j'ai essayé. Alors, Louison, en fait, le problème de Louison, enfin le problème, c'est que... Il adorait tellement l'allaitement qu'il ne mangeait quasiment rien à côté. Ça l'intéressait pas, en fait, la nourriture. Ça... Et donc j'ai essayé de me dire, bah, on va faire plus que quelques tétés, puis le reste des biberons, etc. Mais en fait, il n'en voulait pas. Donc il y a une pédiatre qui m'a dit, en fait, il faut arrêter net, quoi. Enfin, sinon, il va pas comprendre, il va sans cesse attendre la tétée. Quitte à se laisser, enfin, quitte à avoir faim, c'est pas grave, il préfère téter. Donc au début, j'étais pas d'accord, et puis j'ai fini par me dire, bon, bah, peut-être qu'elle a raison. Et donc, on a arrêté d'un seul. J'ai fait un truc horrible, on s'est dit, on va pas y arriver autrement, donc je suis partie, en fait, chez mes parents, quelques jours. J'ai laissé Louison à son papa, pour pas qu'il soit tenté, entre guillemets, parce qu'en fait, quand il me voyait... Ouais, pour faire un sevrage, et... Et en fait, ça s'est très bien passé pour lui. Il est allé chez ses grands-parents avec Gaëtan, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais trop mal, j'étais trop triste. Et quand je suis rentrée, en fait, il y a eu une journée où il a un peu réclamé, mais pas plus que ça, en fait. Et c'était fini.
Tu devais continuer à tirer ton lait, toi ?
Alors, j'ai continué à tirer un peu, juste pour soulager, entre guillemets. Et puis, ça s'est assez rapidement tari. Donc je pense que j'ai tiré, peut-être 2 semaines, 2 fois par jour, et puis une fois par jour. Et voilà. Et en fait, ça n'a pas aidé du tout à sa prise de poids. C'est-à-dire qu'il est, je pense, assez têtu. Il sait ce qu'il veut. Et donc, il a boudé les biberons encore, et il a commencé vraiment à boire des vrais biberons 3 mois plus tard. Donc, je sais pas finalement si c'était l'allaitement le souci ou pas, mais, ou s'il avait juste. Il était peut-être pas prêt. Je saurais jamais. Mais bon, finalement, ça l'a aidé aussi à faire ses nuits, parce qu'il faisait pas ses nuits. Et ça a été radical, c'est vrai qu'il a fait ses nuits du jour au lendemain. Je pense qu'il il avait besoin de réconfort, et c'était vraiment des tétés la nuit, des tétés câlins. Enfin, voilà. Et là, il n'y en avait plus, donc il s'est dit, bon, autant dormir. Donc j'étais un peu triste d'arrêter, et en même temps, ça a fait du bien aussi de dormir un peu la nuit.
Ouais.
Et puis voilà, et moi, ça m'a aussi redonné un peu d'indépendance, quelque part. J'ai pu... repartir, parce que des fois je pars en déplacement pour le boulot, là je pouvais plus partir, enfin, je me voyais pas partir avec mon tire-lait et tout ça, c'était un peu compliqué, donc ça m'a aussi un peu redonné, je me suis un peu retrouvée finalement, donc c'était un mal pour un bien, quoi.
Et alors entre temps, enfin en tout cas pendant cette période d'allaitement, tu as découvert une tumeur à ton sein justement?
Ouais. Alors, quand on allaite, moi j'étais beaucoup, on va dire, sein à l'air, chez moi, etc. Et en fait, c'est vrai que je touchais souvent mes seins pour savoir lequel j'avais donné en dernier, justement, pour varier, etc. Et puis, je touchais mon sein droit. Je me disais, c'est marrant, il est souvent quand même... Enfin, il est tout le temps dur, comme si je ne l'avais pas donné, en fait. Comme s'il n'avait pas tété et qu'il était plein. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, c'est sans doute lié à l'allaitement. J'ai peut-être... Moi, je lisais beaucoup sur le sujet. Donc, j'étais peut-être un canal bouché, un machin, un truc. Et en fait, ça partait pas. Enfin, je sentais toujours cette boule. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais quand même consulter parce que... J'ai une amie qui est décédée d'un cancer du sein quand j'étais enceinte, alors qu'elle avait une petite fille qui avait 8 mois. Enfin, voilà, donc ça a été assez dur. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres, etc. Mais je me dis, par acquis de conscience, je vais aller voir une sage-femme. Donc je suis allée voir une sage-femme. J'ai quand même attendu quelques mois avant d'y aller. J'ai un peu laissé traîner. Et elle m'a auscultée, elle m'a dit, je suis pas inquiète, c'est effectivement peut-être lié à l'allaitement, ou peut-être que vous avez une poitrine qui est un peu dense. Mais voilà, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de cancers chez les femmes jeunes et tout, par précaution, on va faire une échographie.
Et là, Louison, il avait quel âge ?
Louison, alors moi j'étais allée voir la sage-femme en avril, il avait un an.
Okay.
Il avait un an. Et puis en fait... On dit que l'allaitement protège du cancer, etc. Donc j'étais pas plus inquiète que ça. Et donc j'ai appelé un centre de mammographie, échographie. Ils m'ont dit, bah, on n'a pas de place avant 2 mois, pas de problème, c'est pas urgent.
T'avais pas de douleur ?
Ça me gênait un peu, mais j'avais pas plus mal que ça. Bon. Donc j'attends 2 mois, et puis voilà, fin juin, donc il y a un an, je vais à mon rendez-vous, mon échographie. Complètement, enfin vraiment pas stressée quoi. Et j'arrive dans ce centre qui est vraiment spécialisé dans le sein, ils s'occupent vraiment que de ça. Et il y avait plein de femmes dans la salle d'attente qui avaient toutes l'air stressées, tout ça, et je me disais, oh là là, les pauvres, c'est vrai que c'est pas marrant, elles sont toutes peut-être 50 ans et plus, c'est vrai que c'est un âge où. Et puis moi j'étais vraiment super, enfin vraiment, on m'avait dit de pas m'inquiéter, donc je m'inquiétais pas. Et puis voilà, on commence l'échographie, et puis il passe du temps quand même sur mon sein. Il me pose des questions, après il regarde l'autre sein, le sein gauche, très vite, il revient sur le sein droit, je me dis, c'est bizarre, il quand même... voilà. Et il me dit, alors il y a des micro-calcifications, mais je peux pas voir suffisamment l'échographie, il faut qu'on fasse une mammographie. Alors moi, micro-calcifications, je sais pas ce que c'est, enfin voilà. Je dis, ok, bah, je reprends rendez-vous. Non, on le fait tout de suite. Ouais, je sens, ouais, en fait, je sens que le truc, ça part en vrille, quoi. Je me dis, un truc chelou, enfin, c'est bizarre. Et voilà, donc je fais la mammographie, je passe en salle d'attente, et puis il me reprend dans son bureau, il me montre les clichés, et effectivement, il y a une zone quand même assez grosse, de 5-6 cm, donc micro-calcification, ces petites taches, etc. Et il me dit, il faut qu'on fasse une biopsie. Donc je dis, ok, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe ? De quoi on parle ? Enfin, je dis, et il me dit, je peux rien vous dire. J'ai pas de microscope à la place des yeux. Je peux pas remplacer une biopsie. Je peux pas vous dire. Mais je sens qu'il a le regard ultra fuyant. Enfin, qu'il est pas à l'aise et tout. Et je me dis, ok, ça c'est pas bon, quoi. Donc j'ai une biopsie 4 jours plus tard. En sortant, j'appelle Gaëtan en pleurant. Je dis, enfin voilà, il y a un truc quoi, il se passe un truc, ça va pas. Enfin, et voilà, et 4 jours plus tard, je vais faire la biopsie. Et en fait, ils m'installent des. Donc ils mettent des grosses aiguilles dans le sein, ils retirent des petits morceaux de ce qui s'avérera être un cancer du coup. Et ils mettent des petits clips en titane dans le sein. Qui servent éventuellement aux chirurgiens plus tard à savoir où est la tumeur, s'il doit juste enlever la tumeur, voilà.
Et donc là, c'est quoi ? C'est en anesthésie générale ?
Anesthésie locale. Ouais. Donc, ils font plein de piqûres dans le sein. Ça pique un peu. Et après, voilà, avec une grosse aiguille, ils font une mammographie en même temps, ou une échographie, ça dépend des cas, pour voir, en fait, en temps réel. Et puis, voilà, ils vont prélever dans la masse des ce qu'ils appellent des carottes, voilà, des morceaux, et pour analyse en labo. Et je dis à la... Donc il y avait un médecin et une manipulatrice. Et je lui dis, mais du coup, si j'ai rien, ces petits clips en titane, je vais les garder toute ma vie dans le sein. Et en fait, elle hésite. Et elle me dit, Alors, ouais, si, s'il n'y a rien, oui, effectivement. Mais vous savez, ça se soigne aujourd'hui. Oui, bon, ok. Donc ça, c'était la deuxième annonce de ok. Donc ça, en fait, c'est vraiment, ça craint, quoi. Et voilà. Et ensuite, la biopsie, on attend une semaine les résultats.
Comment t'étais dans cette semaine ?
Et hyper angoissée, voilà. Et là, en fait, c'était hyper dur parce qu'on peut tout... Enfin, je m'imaginais tout et n'importe quoi. Donc je me disais, bah, peut-être que c'est rien. Peut-être que, sans doute, que c'est un cancer. Mais à quel stade, je sais pas. Peut-être que je l'ai pris tôt. Mais en même temps, ça fait quand même plusieurs mois que je sens le truc. Donc j'ai quand même laissé traîner. Donc ça se trouve, c'est déjà hyper avancé. Donc peut-être que je vais mourir. Donc peut-être que je vais pas voir grandir mon fils. Et en fait, c'était vraiment... Le plus dur, c'était par rapport à Louison. Mmh. Et j'avais une image qui me revenait tout le temps. Et je me disais, je pourrais pas l'accompagner à l'école pour sa première rentrée. C'était le truc... Voilà, alors qu'il va... En plus, c'est dans un an. Enfin, c'était un truc un peu lointain, mais c'était le truc symbolique pour moi de la maman qui amène son fils à l'école, et j'avais ce truc, et je me disais, je vivrais pas ça, je serais pas là pour lui, quoi. Et en même temps, je me disais, non, ça va aller. Enfin, voilà, j'avais vraiment tous les cas de figure en tête. Après, ma généraliste m'avait dit, n'allez pas sur Internet, parce que chaque cancer est différent, chaque cas est différent, donc vous pouvez pas vous identifier à qui que ce soit, enfin, vous allez vous monter la tête pour rien. Et elle m'avait dit, il y a juste un site de référence qui est le site, un site de référence sur le sujet, vous pouvez aller lire ça. Et du coup, j'avais vu les facteurs aggravants, c'est moins de 35 ans, donc j'en avais 34, c'est bon. La taille de la tumeur, plus de 2 ou 3 cm, moi elle en faisait 5, enfin, j'étais, oh putain, oh là là, c'est chaud, voilà. Et donc, au bout d'une semaine, ma généraliste m'a appelée en disant, voilà, on a les résultats, vous pouvez venir me voir pour que je vous les annonce. Et en fait, j'étais en Normandie. J'étais sur un parking de caramel, d'usine de caramel en Normandie, et je lui dis, mais bah, je reviens, enfin je reviens tout de suite. Elle dit non, mais c'est pas urgent. Je dis mais je veux savoir, en fait, parce qu'ils font pas les annonces par téléphone, en fait. Et je dis non, mais je suis en panique, enfin je. Donc en fait elle dit, bah, vous voulez que je vous le dise par téléphone? Voilà, donc je dis bah oui. Et là voilà, elle me dit, bah, vous avez un carcinome canalaire in situ. Donc voilà, blabla, et elle enchaîne, et je dis, ah, mais je sais pas ce que c'est, en fait. Enfin, mais en fait, pour eux, c'est...
Oui, c'est
leur jargon. Voilà, et donc je dis, mais c'est un cancer. Enfin, et elle me dit, oui, c'est un cancer, mais à un stade très précoce. Donc les pronostics sont bons, ça se soigne, voilà. Donc en fait, j'ai été soulagée, en fait. Et donc j'étais avec ma belle famille à ce moment-là, et donc je raccroche. Et moi, j'étais, mais... hyper contente, parce que c'était je savais que j'avais toutes les chances de m'en sortir, et c'était pas parmi tous les scénarios possibles, c'était finalement quasiment le moins pire.
Ouais.
Parce que je savais déjà que c'était pas bénin, enfin, avec les indices que j'avais eu avant, je savais que c'était...
Ouais, tu t'étais fait à l'idée.
Donc je m'étais fait à l'idée que c'était un cancer, et voilà, et là c'était vraiment au tout début, donc je savais que le cancer du sein, ça se soigne bien quand c'est pris tôt et tout, donc j'étais très soulagée, et donc je leur dis, mais... Et eux, ils étaient effondrés, enfin, parce que pour eux, ils n'étaient pas préparés à ça. Et je dis, mais non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Je vais être soignée, puis ça ira, quoi. Et voilà, et du coup, ça, c'était le 1er juillet, l'annonce. Et après, ça a été très vite, le 2 juillet, donc je suis rentrée, je suis allée voir ma généraliste, qui m'a expliqué, du coup, que la tumeur était vraiment dans le sein, elle n'avait pas migré ailleurs, mais que compte tenu de sa taille, il fallait me faire une mastectomie totale, donc qu'on allait m'enlever tout le sein, en fait.
Donc pas de chimiothérapie ?
Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, pas d'hormonothérapie. Alors, a priori, c'est-à-dire que c'était les résultats de la biopsie disaient ça. Après, il y a eu d'autres rebondissements, etc. Mais en tout cas, voilà, elle m'a dit mastectomie, je vous prends rendez-vous à l'Institut Curie. Et voilà. Et,
Comment tu l'as vécu, cette nouvelle ?
Alors, à nouveau, bizarrement, plutôt bien. Enfin, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que... En fait, je sentais cette boule depuis longtemps, et dès que j'ai su que c'était un cancer, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me retire, enfin qu'on me l'enlève. Je voulais, donc parce que je la sentais vraiment, et du coup mon sein qui nourrissait mon fils encore à ce moment-là, donc c'était très particulier. Mais d'un coup, c'était plus mon sein, c'était mon cancer. Enfin, Donc j'ai dit non, mais voilà, on enlève tout, enfin voilà, retirez-moi ce truc. Et du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Alors ma généraliste me disait, mais vous prenez presque trop bien, enfin vous avez le droit en fait de craquer et tout ça. Et j'ai craqué en fait à un moment dans son cabinet parce que je lui dis, mais ça va être moche. Enfin, j'ai posé la question, mais je pose comme ça et en fait.
La cicatrice.
Ouais, voilà, je savais pas à quoi. Sein. En fait, je savais pas à quoi ça ressemblait une femme qui avait une mastectomie. Et je lui dis, mais ça va être moche. Et Gaëtan et Louison étaient venus avec moi, ils étaient sortis à ce moment-là. Et c'est là en fait où je me suis effondrée, enfin, j'ai commencé à pleurer et tout ça, et elle a pleuré aussi parce que c'était très empathique, elle était formidable. Et en fait, elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup aidée aussi. Et elle m'a dit, bah moi, je vois beaucoup de femmes qui se sont fait opérer. Et je vois pas, en fait, un sein en moins. Je vois une vie qui a été sauvée. Mmh. Et en fait... ça m'a beaucoup aidée, en fait, à accepter le truc, quoi. Je me suis dit, bah oui. Je me suis dit, c'est ça qui est important, en fait. C'est d'être là pour mon fils. Voilà, c'est pas grave, hein. C'est purement esthétique. Alors effectivement, ma poitrine nourrissait mon enfant, mais il me restera un sein et je pourrais continuer en fait. J'ai posé la question et on m'a dit que je pouvais continuer à allaiter parce que j'avais pas effectivement de traitement, de chimio, etc. Et je me suis dit, bah c'est bon, je peux encore remplir mon rôle de maman et je suis là pour lui et c'est ça qui compte. Voilà, donc en fait, 3 semaines plus tard, ça a été très vite, 3 semaines plus tard... ça va en plus, c'est vrai que ça me fait toujours pleurer, mais mais ça va en fait. Et 3 semaines plus tard, j'ai été opérée du coup, donc on m'a retiré voilà le sein. Ça a été c'est une opération qui pour eux est vraiment c'est vraiment la routine. Ça dure une heure. Enfin.
T'as fait ça où ?
J'ai fait ça à Curie, l'Institut Curie. Ça a été vraiment les soignants étaient formidables. Enfin on est Je me suis dit, mais on a une chance incroyable. Enfin, on est dans un pays. Enfin, j'ai été soignée, ça ne m'a rien coûté. Les soignants étaient aux petits soins pour moi. C'est dingue. Et dans ma chambre, je voyais la tour Eiffel qui scintillait le soir. Je me disais, mais. Enfin, c'est fou, quoi. Et j'ai été hyper bien pris en charge. J'ai été opérée l'après-midi. Je suis sortie le lendemain matin.
Ah oui ?
Ouais, hyper rapide. J'ai eu aucune douleur. J'ai pris zéro doliprane, rien. C'était nickel. Ça s'est super bien passé. Il y a une infirmière qui est passée chez moi pendant 2-3 jours pour vérifier que tout allait bien. Tout allait bien. Enfin, voilà. Donc, et j'ai retrouvé Louison. Louison est partie une semaine chez ses grands-parents, encore une fois, parce que je pouvais pas le porter. On s'est dit que ça allait être compliqué. Et j'avais besoin de me reposer, tout ça. Et puis voilà. Et je l'ai retrouvé. Et il a tété sur le sein qui me reste, du coup. Voilà, et on a continué encore 2-3 mois comme ça, avec un seul sein, et ça marche très bien.
Ouais.
Voilà. Donc, ça a été une grosse épreuve pour la famille, pour mes proches, pour Gaëtan, forcément. Louison, je sais pas... Enfin, voilà, il était petit... Est-ce qu'il a compris ce qui se passait ? Enfin, tu vois, je sais pas trop, c'est difficile. Après, il est très, encore maintenant, très fusionnel. Quand il me voit pas pendant 2 jours que je reviens, il est ultra pot de colle et tout. Alors, est-ce que c'est son caractère ? Est-ce que quand même, tu vois, ça a laissé des traces d'un truc ? Oui, enfin, il a peut-être senti... Enfin, il a forcément senti, de toute façon, que j'avais peur et qu'il se passait un truc pas normal, mais... Mais voilà, et du coup, donc après l'opération, ils analysent la tumeur, du coup, pour être sûr qu'effectivement, elle n'a pas migré ailleurs, etc. Donc là, ça dure 3 semaines. Donc c'est encore 3 semaines de... Voilà, on se dit bon. Et voilà, et au bout de 3 semaines, j'ai eu mon rendez-vous, et elle m'a dit, bah c'est bon, en fait, vous êtes guérie. Enfin, donc le terme officiel, donc c'est je suis en rémission totale, puisqu'il n'y a plus aucune trace de cancer... dans mon corps mais la chirurgienne m'a dit nous on dit guéri parce que voilà donc je me suis dit bon bah, je prends la guérison voilà et voilà c'est juste j'ai un suivi tous les 6 mois pendant 5 ans avec échographie des deux côtés et mammographie du côté du sein qui me reste puisqu'on forcément, j'ai plus de seins, donc on peut pas faire de mamou. Voilà, un suivi pendant 5 ans, et puis voilà.
Et comment tu l'as vécu alors physiquement, la perte de ton sein ?
Bah, à nouveau plutôt bien. Alors,
Tu disais qu'au début, tu n'avais pas forcément regardé ce qui se passait.
Ouais, au tout début, effectivement, donc j'ai eu un pansement, mais très peu de temps, juste le temps à l'hôpital. Et au début, j'étais pas prête à regarder, et surtout parce que aussi j'avais peur qu'il y ait du sang, que ce soit un peu dégueu, enfin. Bon, qu'il y ait des fils, enfin voilà, je voulais vraiment, je trouvais que c'était. J'avais pas envie de voir. Et puis ça me faisait peur, parce que j'avais regardé quand même des photos avant sur internet de femmes qui avaient été opérées, il y a des assos qui font des portraits, enfin voilà, il y a plein de trucs sur internet pour déjà avoir une idée un peu de voilà. Mais je me suis dit, juste sortie d'opération, ça va être une boucherie, quoi. Donc je voulais pas regarder. Et puis, je sais plus si dans la nuit ou le matin, il y a une interne qui est venue pour regarder le pansement, tout ça. Donc j'ai tourné la tête. Et en fait, elle l'a mal recollé. Et je n'avais pas fait attention. Puis je sais pas, j'étais au téléphone un peu plus tard. Et j'ai baissé la tête pensant voir le pansement. Et en fait, il s'était décollé. Donc j'ai vu ma cicatrice. Et en fait, c'était très propre. Enfin, c'était vraiment... comme si ça avait été fait déjà il y a un mois. Enfin, c'était nickel, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Et donc, je me suis dit, oh, ça va. Et puis, avant de quitter l'hôpital, en fait, les infirmières viennent. Et en fait, je ne sais pas si ça se passe partout comme ça, mais en tout cas, là, ça se passait comme ça. Elles nous emmènent devant un miroir, en fait, et on regarde avec elles...
D'accord, voilà.
Il y a tout un processus. Donc voilà, elle demande si on est prête. Et puis elles enlèvent elles-mêmes le pansement, etc. Puis on se regarde en fait. Voilà. Et ça allait. Enfin, ça, franchement. Alors j'ai eu quand même un truc qui m'a traversé, enfin, qui a duré un petit peu, quelques jours, où j'avais l'impression d'être coupée en deux et d'être à moitié homme, à moitié femme. C'était une sensation assez particulière parce qu'effectivement, du coup, du côté opéré, j'ai un torse
plat, quoi.
Plat, ouais, voilà. Il y a plus de tétons, il n'y a plus rien. Et du coup, c'est très masculin. Et de l'autre côté, j'avais encore mon sein. Et en plus, j'allaitais, donc il était gros. Donc, il y avait vraiment ce truc où je me disais, oh, je suis mi-homme, mi-femme. C'était très perturbant pour mon identité. Et ça s'est vite estompé. Je me suis vite habituée, en fait. Et voilà. Et on me pose souvent la question d'une reconstruction. Et en fait, pour l'instant, je ne l'envisage pas du tout. J'ai pas envie de retourner à l'hôpital, de me refaire opérer. C'est une opération qui est quand même assez lourde. Enfin, il y a différentes techniques, mais c'est pas anodin, ça reste quand même une opération. C'est assez douloureux, donc j'ai pas envie de m'infliger ça. Je me dis, merde, j'ai des jeunes et déjà suffisamment chié, j'ai pas envie de me réinfliger un truc comme ça. Et en fait, ça se voit pas. Alors j'ai une petite poitrine de base, donc il n'y a pas vraiment un déséquilibre, j'ai pas de douleur, je mets jamais ma prothèse externe, je la porte jamais en fait, parce que ça me gonfle, ça m'embête plus qu'autre chose. Alors en fait, quand on sort de l'hôpital, déjà on a une petite prothèse en mousse, pour mettre dans le soutien-gorge en fait, qui permet... d'équilibrer, voilà, c'est aussi psychologique. Il y a aussi, alors les femmes qui ont une grosse poitrine, effectivement, elles en ont besoin pour pas avoir de problème de dos, de déséquilibre, et ça protège un peu la cicatrice. Et quand c'est bien cicatrisé, on a droit, la sécurité sociale rembourse une prothèse, je pense que c'est du silicone. Alors c'est marrant, je l'avais, donc à Curie, ils présentent tout ça avant l'opération, et donc ils m'ont montré la prothèse, et c'est couleur chair. Je trouve c'était très bizarre, ça faisait on aurait dit un peu un morceau de viande sous cellophane, enfin c'est assez étrange, ouais, c'est vraiment, en fait c'est hyper bien fait, c'est hyper technique, et c'est vraiment fait pour quand tu la portes, en fait ça prend la température de ton corps, ça prend la forme, ça s'adapte vraiment, enfin c'est ultra bien fait. Mais en fait je suis même pas allée la chercher, en fait je suis même pas allée l'acheter parce que j'en ressens pas le besoin, ni psychologique ni physique. Quand je suis habillée, je trouve que si on le sait pas, en fait ça se voit pas tant que ça, parce qu'encore une fois mon sein gauche il est minuscule, donc voilà. Et donc pour l'instant j'ai pas du tout de projet de reconstruction, je vis bien je vis bien comme ça. Et en fait, j'ai vu que c'était... J'ai lu un chiffre récemment qui était qu'en fait, seulement 25% des femmes faisaient une reconstruction. Il y en a beaucoup qui n'en font pas. Et...
Oui, ça fait partie de soi, finalement.
Ouais, moi, j'avais besoin... En plus, on m'avait proposé, en fait, dans certains cas, donc dans mon cas, où j'avais pas de chimio et pas de radiothérapie de prévu après, je pouvais faire la reconstruction immédiatement, c'est-à-dire... On m'enlevait le sein et on me remettait tout de suite une prothèse. Et je me réveillais et j'avais déjà mon nouveau sein. Quoi. Et en fait, je n'ai pas voulu parce que j'avais besoin de me voir sans mon sein pour digérer le truc, pour comprendre en fait. Parce que ça a été tellement vite. C'est-à-dire que ma mammographie, c'était le 20 juin et ma mastectomie, c'était le 22 juillet. Donc en fait, en un mois, j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai perdu mon sein, et voilà. Et le 14 août, on me disait que j'étais guérie. Enfin, ça a été extrêmement rapide. Et du coup, j'avais besoin de me voir comme ça pour comprendre ce qui s'était passé, pour assimiler le truc, quoi. Parce que c'est quand même un tsunami, enfin, c'est un truc, voilà. Donc, voilà, j'ai refusé la reconstruction immédiate. Et puis en fait, je sais pas, je m'imagine pas avec un bout de du silicone à l'intérieur de mon corps. Enfin, voilà, je me dis, on m'a enlevé un truc. J'ai pas envie d'avoir un truc là, quoi.
Et du coup, traverser toute cette épreuve en tant que maman, t'en parlais un petit peu tout à l'heure.
En fait, ça a été à la fois très dur et ça a aussi été très bénéfique. Donc, je me suis toujours dit, il faut que ce truc, ça serve à quelque chose. Sinon vraiment ça n'a aucune logique en fait d'avoir un cancer du sein à 34 ans, enfin voilà. Donc je me suis dit, faut que j'en fasse un truc bien. Donc ça a été effectivement très dur, ça c'est sûr. J'avais vraiment très peur de plus être là pour lui, et c'était vraiment le truc principal. Je me disais, c'était bizarre, je me disais, si je meurs de ce cancer, j'aurais pas vraiment de regrets. Enfin, j'ai une belle vie, j'ai beaucoup voyagé, ça fait 13 ans que je suis avec mon, voilà, j'ai bien profité de la vie et tout. Mais le truc, c'est mon fils. Enfin, je vais être là pour lui. Enfin, je veux le voir grandir. Enfin, c'est génial. Donc, c'était le truc vraiment qui était difficile. Et en même temps, je me suis dit, mais il faut que j'en profite parce que là, c'est un cancer, mais on peut tous mourir demain de n'importe quoi. On peut se faire écraser par un bus. On peut. Enfin, voilà. En fait, on sait qu'on va mourir un jour. On le sait. Mais ça reste un peu abstrait, je pense qu'on préfère pas y penser, forcément, c'est plus simple. Et puis on se dit que ce sera le plus tard possible. Et là, d'un coup, je me suis dit, c'est devenu concret. Je me suis dit, en fait, oui, je vais mourir un jour. Peut-être de ça, peut-être d'autre chose, peut-être demain, peut-être dans 50 ans. Enfin... Et du coup, bah, faut que j'en profite le plus possible. Et du coup, j'ai profité à fond de Louison. Enfin, j'ai lâché prise sur plein de trucs. J'avais beaucoup plus de patience. Je me dis des fois, en fait, on dit non par principe, mais il n'y a pas vraiment. Voilà, maintenant, je dis non quand il y a vraiment un danger pour lui ou pour un objet précieux, voilà, qui pourrait casser. Voilà, mais en fait, j'écoute vachement plus son rythme. Je le regarde grandir, je le regarde s'épanouir. Enfin, j'ai vraiment décidé d'en profiter beaucoup plus. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai aussi décidé de... J'étais très, très fusionnelle. C'était pas du tout la mère que j'imaginais être. Je m'étais dit, ça changera rien, je vais continuer à voyager, machin. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée vraiment maman poule, mais trop à m'en oublier en fait. Et ça a aussi été un électrochoc, et je me suis dit, en fait, faut pas que je m'oublie, parce que il a aussi besoin d'une maman qui s'épanouit, qui est heureuse aussi de son côté. Enfin, il a aussi besoin d'un exemple d'une femme épanouie, et du coup ça a remis pas mal de choses en perspective, ça a remis pas mal de choses en place. On a, par exemple, il allait que 3 jours par semaine chez la nounou. Maintenant, il y va un quatrième jour. Je me suis dit, non, je m'accorde ce temps aussi pour moi. Et par contre, le temps que je passe avec lui, c'est du temps de qualité. Voilà, donc ça m'a finalement aidée aussi dans ma maternité, quelque part, à redéfinir les priorités. J'étais la tête dans le guidon, hein, et puis je faisais mes trucs. Voilà, et ça a été... Voilà, il y a eu un avant et un après, et finalement, il y a eu du positif aussi. Donc je me dis, voilà, ça n'a pas été complètement inutile. Je me dis aussi, c'est aussi pour ça que je te témoigne ou que j'en ai parlé sur mon blog, c'est que si je peux aider ne serait-ce qu'une femme à consulter parce qu'elle a un doute et à ce qu'elle soit soignée à temps, rien que pour ça, ça aura valu le coup aussi en fait. Donc voilà, j'essaie d'en tirer du positif. Quand vraiment je perds patience avec Louison, ça m'aide aussi à prendre du recul et je me dis, attends, il y a des choses plus graves dans la vie. Voilà, maintenant tu le sais, enfin que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc, ça m'a aidé en fait quelque part. C'est peut-être, bon, je suis pas fan hein, des gens qui disent tout arrive pour une raison, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'injustice dans la maladie et si tout arrivait pour une raison, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Hein, moi, les gens me disent ça, je leur dis mais qu'est-ce que tu vas dire à un enfant ? Enfin, moi, j'en ai vu à Curie des enfants qui vivent des chimios à 1 an ou 2 ans. Enfin, donc on peut pas dire que la maladie arrive pour une bonne raison, etc. Mais je me dis on peut pas changer ce qui nous arrive. Voilà, la maladie, elle existe, elle est là, elle peut nous toucher. On peut changer la manière dont on la vit. Et faire en sorte que le temps qui nous reste sur cette terre, qu'il soit long ou court, on ne sait pas, autant qu'il soit cool, quoi, que ça se passe bien, qu'on en profite, qu'on soit heureux et qu'on fasse du bien autour de nous et à soi-même. Et voilà, c'est un peu...
Vous envisagez de faire d'autres enfants ou...
Alors, c'est la grosse question. Alors déjà, bon, alors avec le 5, avec le cancer, ça a été une question qui s'est posée. Dans mon cas, comme j'ai été très bien soignée très tôt, etc., on m'a dit qu'il fallait de toute façon attendre 6 mois, 1 an au moins pour voir, parce qu'effectivement je suis quand même plus à risque d'en développer un autre. Voilà, donc je suis surveillée. Donc on se laisse le temps déjà de digérer tout ça, de voir que tout va bien. Et puis après, c'est une vraie question parce que. On a été très fatigués avec l'arrivée de Louison. On s'attendait pas du tout, en fait. On n'y connaissait rien au bébé. On pensait que ça allait rouler tout seul. Et en fait, on a été épuisés. Il a fait ses nuits, bah, du coup, quand j'ai arrêté d'allaiter, donc à 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, on s'est réveillés 3 fois par nuit. Enfin, on est vraiment... Et puis le cancer, ça nous a fatigués aussi, hein, psychologiquement. Il y a le contre-coup et tout. Donc la grosse hésitation, c'est la fatigue. C'est se dire, est-ce qu'on est capable... de repartir dans des nuits hachées, etc. Y a une question aussi environnementale, parce qu'on est assez écolo, etc. Et on se dit, bon, on est quand même dans un monde qui va pas très bien, est-ce que c'est vraiment responsable de faire plein d'enfants et tout ? Bon, les avis sont partagés là-dessus, mais nous, ça nous interroge. Et puis, voilà. Et en même temps, bah... J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré allaiter, j'adorerais revivre tout ça. Je sais déjà que je réallaiterai, même si je n'ai plus qu'un sein. Voilà. Ouais. Je sais que j'essaierai et je sais que la nature est bien faite et qu'on peut allaiter avec un sein, un seul. Donc j'ai en fait quand même envie de revivre tout ça. Je me dis qu'en plus, maintenant on sait un peu ce que c'est qu'un enfant, hein. Donc on est peut-être plus préparé, on sera peut-être un peu plus détendu. Et en même temps, l'arrivée d'un deuxième, je sais aussi que c'est compliqué, la gestion de la fratrie, le plus grand qui a encore besoin de nous et tout. Bon, c'est vraiment, vraiment un questionnement. Donc aujourd'hui, on va dire c'est 50-50, on verra.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Tout. Ouais, non, bah, enfin... Ouais, tout. Ça a été dur, vraiment ça a été dur pour moi. Ça n'a pas été, comme je le disais, instinctif, c'est pas venu tout de suite. Il a fallu vraiment du temps pour créer le lien. Enfin voilà, ça s'est fait. Alors, bien sûr, j'ai aimé mon fils, mais, mais ça, il se crée encore aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il évolue, qu'il parle. Et du coup, ça n'a pas du tout été une évidence. Et en même temps, je me suis retrouvée dans cette espèce d'hyper maternité, enfin, où voilà, j'ai allaité 1 an et demi, on faisait du cododo, on faisait du portage, enfin, on était vraiment dans le truc ultra, ultra, le maternage proximal à fond la caisse. J'ai eu du mal en fait à trouver quelle maman j'étais, enfin, ça a été compliqué. Et en même temps, depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus zen. J'étais hyper angoissée avant, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai été hyper zen pendant ma grossesse et maintenant, je fais plus de crise d'angoisse,
Depuis que t'as accouché.
Depuis que j'ai accouché, ouais. Au début, je me disais c'est l'allaitement, c'est les hormones de l'allaitement qui sont connues pour favoriser le bien-être et tout. La nature est hyper bien faite. Mais même depuis que j'ai arrêté d'allaiter, en fait, j'ai plus d'angoisse, je suis beaucoup plus sereine. J'accueille les mauvaises nouvelles avec pas mal de recul. Enfin, ça m'a vraiment aidée à prendre du recul sur plein de choses, à relativiser plein de trucs que je trouvais importants avant. Et des réseaux sociaux, les trucs qui étaient mon métier, enfin qui sont encore mon métier, mais j'ai beaucoup plus de recul là-dessus. Et ouais, ça m'a aidée à relativiser plein de choses. Voilà, ça, je ne vais pas dire que ça a donné un sens à ma vie, parce que je pense qu'on peut... Notre vie peut tout à fait avoir un sens sans enfant. Vraiment, là-dessus, j'ai aucun doute. Mais c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire. On sait pourquoi on se lève le matin. Enfin, ça a ajouté vraiment... Et puis, ça m'a aidé à me connaître et à découvrir mon mari sous un autre jour aussi. C'est un super papa. Enfin, non, ça a changé énormément. Et puis, ça a changé aussi professionnellement, forcément, parce que j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses. Mais en même temps, c'est pas plus mal aussi, parce que j'ai aussi pris du recul là-dessus. Enfin, voilà, non, ça a été et c'est encore difficile, parce que c'est pas tout rose d'être maman. Enfin, il y a plein d'énormes joies. Enfin, voilà, quand ils s'amusent, quand ils rigolent, c'est génial. Enfin, de voir apprendre des trucs, lire les histoires. Il y a plein de moments extraordinaires, mais il y a aussi plein de moments compliqués. On va pas... Non, mais on va pas se mentir. La gestion des frustrations, quand même encore un peu le manque de sommeil, parce qu'on a un enfant qui se couche très tard, enfin, voilà, qui veut pas se coucher avant 10h, 10h30 le soir, qui à 7h est réveillé, ouais, super en forme, et du coup voilà, il y a quand même encore un peu de fatigue, et puis la gestion de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est émotion et tout, où ça touche à des trucs aussi, à sa propre enfance, enfin, ça réveille pas mal de choses aussi. Donc on apprend tous les jours, et c'est un challenge tous les jours, mais en même temps c'est hyper cool. Enfin, là, on est à un âge super en plus, je trouve. Enfin, l'âge des 2 ans qui est compliqué, mais qui est aussi super parce qu'il devient de plus en plus autonome, il parle de plus en plus, donc on se comprend, on joue, on échange. Enfin, c'est cool.
Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm-hmm. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, pour moi, être une maman parisienne, c'est être hyper courageuse parce que je suis une maman de proche banlieue parisienne. Et j'admire beaucoup les mères parisiennes qui sont en poussette, dans le métro, etc. C'est compliqué. J'admire les mamans qui vont au parc le week-end, qui sont blindées d'enfants. Voilà. Non, en même temps, c'est génial parce que Paris, ça a plein de choses à offrir, je pense. Mais je suis assez contente d'être en proche banlieue parce qu'on est... C'est presque un peu la campagne, finalement, en étant proche de Paris.
Et quel est ton lieu kids-friendly préféré ?
Alors du coup, mon lieu kids-friendly préféré, c'est les vergers qui sont juste à côté de chez moi, donc qui sont des vergers associatifs, et où il y a des poules, des oies, des lapins, etc. Et en fait, Louison adore y aller. Donc on y va quasiment tous les jours. Il adore en fait. Il réclame toujours les poules et tout. Et voilà, alors moi j'avais plein d'idées au début en me disant je vais l'emmener au musée, etc. etc. Mais en fait, je me rends compte qu'à 2 ans, c'est plus moi qui en profite quand on y va que lui. Et lui, ce qu'il adore, c'est toucher l'herbe, donner à manger aux poules. Enfin, voilà. Donc ce serait ce petit coin de nature en ville. Ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, ce serait reprendre un petit peu plus le boulot, mais peut-être en me réorientant un peu. Enfin, voilà, faut que j'y réfléchisse. C'est encore un peu flou, mais j'aimerais bien retrouver une activité peut-être complètement différente ou orienter un peu plus ma photo vers une autre pratique, un peu plus de portrait. Peut-être aussi par rapport à ce que j'ai vécu, peut-être aider des femmes qui ont été opérées à mieux s'accepter. Enfin, voilà, tout ça, c'est en train de... Voilà, de bouillonner, de maturer, voilà, c'est un peu flou. Et en famille, bah, ça sera sans doute partir un peu en vacances, mais on n'a pas encore organisé grand-chose, parce qu'avec le confinement et le déconfinement, on attendait un peu de voir à quelle sauce on allait être mangé. Mais ce sera des vacances, probablement à la campagne aussi, à la cool, pour que Louison puisse gambader dans les prés.
Merci beaucoup, Juliette.
Ben, merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet abordé avec Juliette, laissez votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 51 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.